Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant M. Il est 9h41 sur France Inter.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Martin Veil, ses initiales, un M, un W, une seule et même lettre en miroir. C'est troublant, non? Comme un signe, comme un sigle qui, de toute évidence, nous cache quelque chose. Ce nom est un faux, un paravent, un logo. D'ailleurs, Martin Veil n'existe pas. Qui pourrait croire à cette créature façonnée par la télé? Né dans l'émission de Yann Barthès sur TMC, puis dupliqué, cloné, mais bien trop miné pour être vrai. Son avatar a été envoyé aux quatre coins de la planète. Souvent à deux, voire trois endroits à la fois, ça ne colle pas. Les chasseurs de vérité l'ont depuis un bail débusqué, mais il demeure ignoré, méprisé. Ce matin, retour sur une supercherie de plus destinée à nous intoxiquer.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Martin Veil.
Bonjour Sonia, je vois que vous êtes devenu complotiste.
C'est ça, merci Martin Veil. Donc c'est demain soir sur TMC, juste après Quotidien. Martin Veil et le grand complot. Qui en sortira vainqueur, Martin Veil ou le grand complot? Puisque à partir de maintenant, vos prime time sont présentés comme des émissions de cash. Martin Veil face au gourou, Martin Veil face à Las Vegas. Voilà, bref, ce sera programmé à 11 septembre, c'est fait exprès?
Non, c'est un hasard.
Ah ben non, mais comment voulez-vous?
Non, mais je vous assure,
une chose pareille.
Non, je vous assure.
Ah
non, enfin, c'est un hasard. C'était... On avait prévu de diffuser plus tard, et puis finalement, on diffuse plus tôt. Et il se trouve que c'est le 11 septembre.
Plus personne ne vous croit. Le conspirationnisme à la sauce Martin Veil. On en parle dans un instant. Bonjour Xavier Delaporte.
Bonjour Sonia. Bonjour à toutes et à tous.
Oh, mais comme ça fait du bien d'entendre une voix calme, douce et posée. La fenêtre de la porte, c'est la chronique numérique du mardi matin. Elle s'ouvre sur.
Et bien sur Facebook, parce que d'ici quelques semaines, Facebook devrait tester un nouveau service qui mérite qu'on s'y arrête un instant, parce qu'il vise en gros à remettre un peu d'humain dans le buzin. Alors je vous explique. Vous le savez, le réseau social fait face à de nombreuses critiques eu égard à la manière dont il est donné à voir l'information.
Ouais.
Propagation de fake news, enfermement des usagers dans des bulles informationnelles qui les confortent dans leurs opinions, avantages donnés à des contenus sensationnels. Derrière ces critiques, ce qui est visé, c'est l'algorithme qui distribue l'information sur notre fil d'actualité. Un algorithme dont on ne connaît pas les détails, secret industriel, mais dont on sait qu'ils sélectionnent et hiérarchisent les contenus en fonction de ce sur quoi on clique le plus souvent, de ce qu'on like ou partage le plus, mais aussi en fonction de la popularité du contenu parmi nos amis, etc. Bon, un algorithme dont Facebook change régulièrement et autoritairement la pondération des différents critères dans le seul but que ses usagers passent le plus de temps possible sur sa plateforme, car comme l'a découvert l'économie numérique, le temps c'est de l'argent. Donc, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait réintroduire de l'humain dans cette sélection de l'information. Comment? Eh bien, en passant des accords avec différents journaux américains pour l'instant, et en engageant des journalistes, des vrais journalistes en chair et en os, pour faire des choix d'articles. L'idée
Genre
étant
Martin
de proposer...
Veil.
Genre, alors, ça dit, on parle pour l'instant de journalistes plutôt à la retraite. Bon, bon. L'idée étant de proposer au final à l'usager un fil d'information qui soit un mélange de ses choix humains et de la sélection automatique par l'algorithme. On ne sait pas encore en détail comment ça va fonctionner, mais c'est très intéressant à plusieurs égards. D'abord, c'est prendre acte qu'il y a un problème avec ce fil d'actualité automatique de Facebook, et c'est un enjeu de taille, juste un chiffre. On estime aujourd'hui que 68% des Américains s'informent prioritairement par les réseaux sociaux et 43% par Facebook. 43% des Américains, c'est énorme. Ensuite, l'idée de réintroduire de l'humain est intéressante en elle-même. Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais comme on n'est pas un comptoir, il n'y a pas de risque.
Voilà.
Pour des types de la Silicon Valley comme Mark Zuckerberg, l'humain est un problème. Il est partial, il est faillible, il est irrationnel. D'où une croyance absolue dans le programme informatique qui seul peut pallier ses défauts et imposer rationalité et impartialité. Réintroduire de l'humain, c'est donc un aveu implicite que cette croyance est un leurre. C'est reconnaître que l'humain a des qualités que la machine n'a pas, et c'est en soi une petite révolution. Enfin, en réintroduisant l'humain, Facebook fait un autre aveu implicite. La plateforme devra assumer ses choix éditoriaux. Elle ne pourra plus se cacher derrière l'algorithme pour dire qu'elle n'est pour rien dans la hiérarchie de l'information. Elle devra assumer donc sa position de média, ou pour être plus exact, il faudrait dire de méta-média, un média fabriqué par et avec d'autres médias. D'ailleurs, il sera intéressant de voir quel type d'accord la plateforme passera avec les journaux qui accepteront de collaborer. NBC parlait il y a quelques jours de 2 à 2,5 millions de dollars par an qu'offrirait Facebook à chaque journal pour avoir le droit d'intégrer ses contenus dans son nouveau fil d'actualité. Or, 2,5 millions de dollars, c'est beaucoup pour un petit média, typiquement un journal local ou BuzzFeed, mais c'est peu pour le New York Times qui cède en plus à Facebook l'utilisation de sa prestigieuse image pour promouvoir son nouveau service. Et vraisemblablement, ça discute sec encore pour savoir qui ira ou qui n'ira pas parmi les médias américains. Bref, aujourd'hui, on ne sait pas si on est à l'aube d'un nouveau rapport vertueux entre la presse américaine et Facebook, et peut-être la presse mondiale un jour, ou si va être bientôt entérinée définitivement la séparation entre deux mondes concurrents et irréconciliables.
Affaire à suivre, mon cher.
Voilà, affaire à suivre, exactement.
À réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Je suis ravi d'être sur la télé française de l'État islamique, califat de France. Content d'être là. Hail Allah, ravi de savoir que vous êtes contrôlé par les islamiques.
Ainsi, Alex Jones, pape du conspirationnisme américain, accueille-t-il la télévision française? Il a fini par accorder une interview à Martin Veil, ici présent. L'interview sera, enfin du moins...
Si on peut appeler ça une interview,
sera donc diffusée demain soir sur TMC, dans ce prime dont nous parlons aujourd'hui. Martin Veil et le grand complot. Alors pourquoi lui? Pourquoi Alex Jones? Parce que Martin Veil, vous vous plongez dans les arcanes de Sandy Hook, dont Alex Jones a fait un temps son miel. On va raconter brièvement l'histoire. Le tueur avait 20 ans, il a d'abord abattu sa mère, il lui a volé ses armes, il est revenu dans l'école de son enfance, il a tué 20 enfants, puis 6 adultes et enfin s'est tiré une balle. On se souvient du président Obama en larmes, sauf qu'au bout de 48 heures seulement, les théories du complot ont surgi. Il s'agirait d'un coup monté, des anti-armes, ce seraient des comédiens. Tous ces gens-là, les parents, le proviseur, les enseignants, des comédiens qualifiés de satanistes très rapidement sur les réseaux sociaux par les chasseurs de vérité. Il faut que vous racontiez le calvaire qu'ont vécu ces parents endeuillés et que vous avez rencontré, Martin Veil.
Oui, c'est absolument terrible. Je ne sais pas si vous imaginez de perdre votre enfant dans une tuerie. C'est l'une des pires tueries de masse, hein, de l'histoire des États-Unis. À peine 48 heures après ce drame, des voix s'élèvent pour dire que tout est faux, comme vous l'avez dit, que ce serait une conspiration ourdie par l'administration Obama pour promouvoir des lois anti-armes. Et donc vous avez ces parents qui viennent de perdre leurs enfants et qui doivent faire face à ça. C'est allé très très loin. Il y a eu des demandes de manifester à l'enterrement. On a notamment rencontré une mère de famille
qui est bouleversante.
Oui, à qui les complotistes ont demandé de déterrer le cercueil de son fils pour prouver que le cercueil est vide. On n'a même pas de mots, en fait, quand on rencontre cette dame. Et petit à petit, et au fur et à mesure de notre enquête, on en a rencontré énormément des parents comme ça.
Alors, certains ont fui.
Oui.
Du coup, vous les interviewez en duplex vidéo.
Oui, exactement. Vidéo. Avec Skype, ouais, certains ont fui parce qu'ils pouvaient
d'autres
plus vivre ici.
D'autres se battent. Et vous avez rencontré un père de famille qui a réuni 300 volontaires pour, justement, débusquer les sites complotistes, les faire fermer, les faire condamner.
Exactement. Pour lui, c'est devenu le combat de sa vie. Pour que ça ne puisse plus se produire. C'est un travail minutieux, c'est un travail de fourmi, c'est d'aller sur les plateformes, c'est de débusquer ses comptes, c'est d'enlever les vidéos. Et effectivement, il a trouvé 300 volontaires, 300 bonnes âmes qui l'aident dans son combat. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui aujourd'hui ne montre plus son visage dans les médias parce qu'il craint pour sa sécurité. Il y a déjà eu des menaces de mort contre lui. C'est des vies incroyables et qui ont été entièrement brisées par des complotistes.
Alors justement, on en arrive à Alex Jones. Il faut d'abord que vous racontiez, que vous remettiez le personnage dans le contexte. On va peut-être aussi le décrire physiquement, puisque vous, je pense qu'une partie des auditeurs commence à avoir en tête votre silhouette.
vous voulez dire ma musculature impressionnante?
Voilà. Ouais. Non, mais vous vous êtes retrouvé face à une sacrée masse, Il est même physiquement impressionnant.
Oui.
Physiquement écrasant. Il faut que vous racontiez ce qu'est InfoWars.
Ouais, InfoWars, c'est donc le site de ce monsieur qui s'appelle Alex Jones, qu'on appelle souvent le pape du complotisme ou le pape du conspirationnisme. C'est quelqu'un qui, depuis des années, gagne de l'argent en répandant des théories du complot. Ça va très très loin. Il a même une théorie selon laquelle Michelle Obama potentiellement serait un homme. Vous prenez n'importe quelle théorie du complot, il a surfé dessus pour gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui est très violent et c'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui joue l'intimidation en permanence, que ce soit dans ses propos ou que ce soit même physiquement. Par exemple, dans l'échange, si on peut qualifié comme ça qu'on a eu, il me propose propose à un moment de se battre.
Adoubé par Donald Trump pendant la campagne en 2016, c'est pas rien parce que ça le fait rentrer dans le cercle médiatique qui s'est formé à ce moment-là.
Exactement, c'est-à-dire qu'à l'époque déjà on en avait beaucoup parlé. Aujourd'hui, les gens connaissent un petit peu mieux Alex Jones. C'est incroyable, Donald Trump a été reçu dans son émission. Une forme de copinage, c'est vraiment un conspirationniste si vous voulez. Trump gagne l'élection, InfoWars multiplie ses vues juste après ça.
Jusqu'à 83 millions de vues par vidéo. Hein.
Exactement. C'est quelqu'un dont Donald Trump a été prochainement, ou en tout cas que Donald Trump a utilisé, a utilisé les réseaux d'Alex Jones aussi pour se faire élire. C'est quelqu'un d'extrêmement influent, en tout cas qui a été extrêmement influent.
Alors, comme vous le dites, il a fini par se dédire sur la tuerie de Sandy Hook. Il vous le dit d'ailleurs, il en a déjà témoigné ailleurs. Il dit avoir été pris, en fait, par une psychose collective. Pour lui, ça a été sans doute le complot de trop. C'est-à-dire le complot qui fait qu'il a été lâché par l'ensemble des GAFA. Il était temps, ça aura mis 7 ans.
Exactement, c'est ça et je pense que c'est ce qui l'énerve le plus. D'ailleurs, c'est une des choses qu'il dit. Il dit, mais j'en ai peu parlé de Sandy Hook. Je pense que ce qui l'agace, c'est que ce coup-ci, il est allé trop loin. On touche pas à ça. On peut pas toucher à des familles endeuillées. On peut pas dire des choses à des millions d'auditeurs qui font qu'il y a des gens qui vont harceler. Exactement. Et du coup, les GAFA ont décidé de le retirer des plateformes. Pour lui, c'est terrible, parce que c'est un manque à gagner énorme. Du coup, c'est une affaire qui l'énerve, et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'il nous a, si vous me permettez de le dire, envoyé chier.
Envoyé chier, bah écoutez, hein, on va l'écouter cette interview.
Laissez-moi m'expliquer. On a des armes de destruction massive en Irak, et un gouvernement qui ment sciemment à ce sujet.
Oui, mais on est en train de parler de Sandy Hook, là. Vous avez dit, en décembre 2012, sur Infowars, hors champ, son avocat intervient.
Vas-y, montre Norman à l'image.
Annonçant la fin de l'interview et le début du grand n'importe quoi.
Je ne t'ai jamais rencontré avant aujourd'hui, alors n'essaye pas de m'enfumer.
Pardon ? C'est une blague ?
Mais c'est toi la blague. T'es fini, t'es plein de conneries.
Je suis quoi, pardon ?
Mais tu veux te battre ?
Voilà comment ça s'est déroulé. Voilà ce qu'il en reste de cette interview. C'est un moment extrêmement tendu. Je pense qu'il est il est intéressant parce que on voit aussi la folie, on voit aussi le côté totalement irrationnel et incontrôlable du type.
Oui, exactement. C'est quelqu'un qui est incontrôlable. Ce qui est très difficile, c'est de savoir en fait à quel point est-ce qu'il croit en toutes ces théories et à quel point est-ce que c'est un business pour lui. À quel point, par exemple, est-ce qu'il a décidé de jouer ça, parce que de toutes les manières, c'est ce que les gens qui l'écoutent vont attendre. On est un journaliste français, on a bien vu ce qu'il pense de la France. Est-ce que c'est une façon facile pour lui de s'en sortir ? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est un petit peu fou ? Je sais pas. Ce qui est intéressant, en fait, dans le fait de l'interviewer, c'est qu'après avoir récolté tous ces témoignages de gens à qui il a fait énormément de mal, on voulait savoir quel était son regard aujourd'hui sur ce qu'il avait fait. Et s'il avait une once de remords, on a notre réponse.
Vous êtes aussi, vous avez continué donc votre road trip à travers les États-Unis et à travers les terres du complotisme et les thèses du complotisme. Vous allez à la rencontre des platistes dans un deuxième sujet, puis ensuite vous partez en Afrique du Sud, vous rencontrez des blancs, des Afrikaners, de 100 à 200 000 membres réunis dans une ONG de protection des blancs, persuadés que le gouvernement en fait prépare un génocide contre les blancs. On va aller directement en Afrique du Sud. On reviendra aux États-Unis ensuite à la rencontre de ceux qui pensent sincèrement que la terre est plate. Je l'ai dit donc. On les appelle les Sudlanders. Ils sont eux aussi extrêmement impressionnants. On entend leur porte-parole, qui s'appelle Simon Rush.
Qui sont les Sudlanders ? Vous êtes des Afrikaners, des Blancs ?
C'est une organisation d'Afrikaners créée par des Afrikaners, pour des Afrikaners. Nous avons reçu des informations des services de renseignement étrangers basés en Europe et aux États-Unis. Et ils nous ont prévenus. Hey, les gars, vous savez que des forces révolutionnaires sont en train de s'armer en vue d'une guerre civile.
Mais qui vous dit ça ?
Des services de renseignement. Je ne peux pas vous donner de nom, bien sûr.
Mais qui ? La CIA, la DGSE ?
Je ne vous dirai pas, ça risque de briser la confiance.
Ils sont persuadés de l'approche de ce génocide et de la menace de ce massacre au point, et vous les avez filmés, de se livrer à des exercices de survie, de fuite et de vie en autonomie.
Oui, exactement. C'est un groupe survivaliste. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on appelle ça. Persuadé qu'il va y avoir une forme de guerre civile et effectivement qu'il y a un génocide des Blancs en cours en mm-hmm. Afrique du Sud. Ce qui peut sembler complètement dingue. Et ils organisent, oui, des exercices grandeur nature. On a pu en suivre un. Ils imaginent en fait le jour où tout va s'effondrer. Et du coup, bah, ils prennent leur pick-up. Ils ont des sacs de survie. Ils s'organisent. Ils ont des convois. C'est presque paramilitaires. Ils ont d'ailleurs beaucoup d'anciens militaires qui sont dans leur rang et ils organisent.
D'ailleurs, cette ONG de défense des Blancs ressemble quand même assez de près à une milice.
Ah oui, oui, mm-hmm. clairement. Ils sont d'ailleurs armés, enfin ils encouragent leurs membres à être armés, mm-hmm. mais alors dans une attitude qui serait une attitude de défense et pas d'attaque, mm-hmm. mais quand on écoute leur discours, oui, donc ils sont persuadés que les Blancs sont menacés, et ce qui est très intéressant aussi derrière, c'est que quand on tire le fil, vous l'avez bien montré dans l'exemple qu'on a ici, ils nous disent que, évidemment, tout ça ils le savent parce que des agences internationales leur ont dit, sans jamais en apporter la preuve, mm-hmm. et quand on leur demande qui est derrière ce complot. Donc évidemment, on retrouve le gouvernement de l'ANC, donc le gouvernement sud-africain, et puis au-dessus, il y aurait des superpuissances.
Alors justement, revenons-y, parce que ces superpuissances, finalement, ce sont les mêmes qui seraient à l'origine de cette idée saugrenue, à savoir que la Terre est ronde.
Exactement, c'est ça qui est intéressant, en fait, oui. dans les théories du complot, c'est qu'in fine, quelle que soit la théorie, on en revient un petit peu souvent au même coupable. Mmh. On va dire que c'est la finance internationale. On va dire que ce sont les sociétés secrètes, les francs-maçons par exemple. Mmh. Et la Terre est plate, je pense que c'est un bon exemple parce qu'évidemment, bah c'est un peu drôle de se dire « Ah, mais des gens pensent que la Terre est plate ». En fait, ça l'est pas tellement, parce que si vous pensez que la Terre est plate, ça veut dire que vous croyez au complot ultime. Mmh. Imaginez, ça veut dire que la Russie et les États-Unis, même pendant la guerre froide, nous ont menti, que les gouvernements du monde entier nous mentent, etc. etc. C'est des gens qui sont dans une forme de paranoïa assez sévère. Mmh. On rencontre notamment quelqu'un qui s'appelle Mike,
ouais.
et qui lui...
Mad Mike.
Mad Mike, exactement, ouais. Mike le fou, le bien nommé, et qui lui crée ses propres fusées pour essayer d'aller dans l'espace pour pouvoir prouver.
Mais surtout,
une fois
Martin Veil, il anticipe le moment où il va être enfin révélé que la Terre est plate. C'est-à-dire, il anticipe une sorte de choc psychologique, financier, physique, mondial. Tout va s'arrêter.
Exactement. Il est persuadé que tout s'arrêtera. Et d'ailleurs, on lui dit, est-ce que ça vaut le coup, du coup, si jamais c'est le cas? Et là, il est un petit peu perdu. Et ce qui est intéressant qu'on discute avec lui, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un, et souvent, ce sont des gens qui finissent par ne plus croire en rien.
En rien.
Imaginez le désespoir dans lequel vous vous trouvez quand vous avez l'impression que tout le monde vous ment, que tout est faux, que vous ne pouvez rien croire. Donc,
alors ce qui est intéressant dans ce sujet sur les platistes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'est que vous allez filmer dans les lycées et même dans les écoles primaires. C'est qu'on en vient à la question fondamentale, celle de nos enfants, des lycéens et des petits. Et il y a forcément un conspirationniste quelque part dans leur famille qui leur dit « on te ment à l'école ». La Terre est plate.
Exactement, on va dans une école, on fait du coup une expérience, justement pour montrer que la Terre est bien ronde, on risque de choquer certains auditeurs.
Non mais c'est devenu un projet majeur dans certaines écoles, un projet majeur porté par les enseignants. Faire en sorte que les enfants terminent leur scolarité en ayant une notion, au moins une notion, que oui, la Terre est ronde.
Exactement, il y a une des profs d'ailleurs qui nous dit que, à travers le travail qu'elle fait avec les enfants, elles espèrent que eux vont pouvoir derrière, en discutant avec leur famille.
Mmh. Évangéliser.
Exactement. Et justement, leur dire, mais non, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Et c'est particulièrement important avec les enfants. Je rebondis sur votre chronique aussi. À l'heure aujourd'hui des réseaux sociaux, à l'heure des plateformes, c'est devenu très difficile de savoir qu'est-ce qu'une bonne info. C'est devenu très difficile de savoir que telle vidéo est digne de foi ou que telle vidéo est une vidéo complotiste. Donc, il y a un énorme travail à faire. Et effectivement, ça passe en grande partie par l'éducation et par les collèges et les lycées.
Merci beaucoup, Martin Veil. Il est en face de moi, je l'ai touché, je lui ai parlé. Il existe et il est demain soir sur TMC face au grand complot.